radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Ta team en Poukou. Okapi.
Nous voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. Que faut-il faire pour moderniser les transports par voie fluviale et ferroviaire en RDC? Nous en parlons avec le professeur Jean-Dédié Minengou. Il est coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable à Taïd en sigle. Professeur, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, la radio de la paix.
Chers auditeurs, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, questions et témoignages et puis propositions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous disons merci aux nombreux internautes qui ont déjà commencé à laisser leurs commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service depuis hier soir. Nous lisons par exemple les commentaires de Victor Bébéné de Mbujimayi au Kassai oriental. Il dit ceci: la RDC est en train de sombrer à petit feu à cause du manque de volonté politique. Faisons seulement une petite analyse des fonds qui sont détournés par ceux qui ont censés garantir une meilleure vie. Est-ce que la nation congolaise n'a pas un plan de développement du secteur ferroviaire, lacustre et fluvial? Nous entendons également vos commentaires dans les courriels de nommés service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Élise Kavira réalise ses rendez-vous et Pierre Diassinois est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Que faut-il faire pour moderniser ou améliorer les conditions des transports par voie fluviale, lacustre et ferroviaire en République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec le professeur Jean-Dédié Minengou. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Acte en sigle. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner, avancer des propositions au numéro 081-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. En RDC, les infrastructures de transport fluvial, lacustre et ferroviaire jouent un rôle capital, mais elles font face à de nombreux défis par manque de ressources. Le fleuve Congo et ses affluents, comme la rivière Kasaï et l'Ubangi, sont essentiels pour le transport des marchandises et des personnes, et surtout dans les régions où les routes sont quasi inexistantes ou impraticables, surtout l'impraticabilité des routes. Et cependant, environ 9000 km de ces voies ne sont pas balisées régulièrement, ce qui complique la navigation. On documente des cas de noyades et des naufrages presque chaque semaine. Il y a même des cas qui ne sont pas documentés, révélés par la presse. Et quant au réseau ferroviaire qui s'étend sur environ 5033 km, il est fragmenté et utilise différents standards d'écartement inadaptés aux normes actuelles. Ce sont des wagons qui sont presque révolus, obsolètes, les voies ferrées qui ne répondent pas aux normes internationales. Alors que les infrastructures ferroviaires nécessitent des investissements assez colossaux pour moderniser et interconnecter les différentes lignes afin d'améliorer l'efficacité de la mobilité des personnes et de leurs biens dans la République démocratique du Congo. Alors, que faut-il faire pour moderniser ou améliorer les transports par voie fluviale, lacustre et ferroviaire en RDC? C'est de ces thèmes que nous abordons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Professeur, est-ce que vous partagez ces constats que il y a vraiment beaucoup de problèmes dans le secteur des transports fluviales, lacustres et ferroviaires en RDC?
Oui, merci d'abord une fois de plus pour l'invitation. Et c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup au niveau de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Il faut le préciser, il s'agit d'un service spécialisé du président de la République.
Qui dépend de la République, de la présidence.
Qui dépend du président de la République. Donc, tout ce que vous venez de donner comme décor, tout ce qu'il y a comme défi, tout ce qu'il y a comme problème au niveau du secteur du transport fluvial ferroviaire en République démocratique du Congo, en tout cas, nous partageons cet avis qu'il y a des défis importants à relever et dans ces deux types de voies de communication, vous l'avez dit, qui devraient jouer un rôle important, c'est concernant l'interconnectivité. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle les transports multimodaux et interconnectés. J'ai beaucoup aimé le mot d'interconnexion. Vous avez les routes, c'est vrai. Vous avez parlé des états dans lesquels se trouvent des routes en République démocratique du Congo. C'est l'une des voies de communication en République démocratique du Congo. Nous avons les voies fluviales et on en a autour de 25 000 kilomètres navigables. Nous avons les chemins de fer, vous l'avez dit, on est autour de 5 000 en moyenne. Mais vous avez également la voie aérienne, vous connaissez dans quel état ça se trouve, les équipements aéroportuaires et tout ça. Donc c'est un problème, nous avons un problème. Alors, si notre pays veut s'engager sur la voie du développement durable, il est important de développer ce que nous venons de dire, les transports multimodaux interconnectés. C'est vrai que nous avons près de 25 000 kilomètres de voies d'eau navigables, nous avons 5 000 kilomètres de voies ferrées. Vous savez dans quel état ça se retrouve déjà quand vous quittez Kinshasa pour aller à Matadi. Moi-même, quand j'ai quitté l'université pour aller à la station de recherche agronomique de l'UNIKIN, je ne savais pas que j'avais traversé les rails. Je ne savais pas.
Déjà ici à Kinshasa, les transports urbains par voie ferrée sont entrecoupés.
Il y a des choses à faire, Tati. On a du boulot. Peut-être qu'on perd beaucoup de temps sur des choses inutiles. Mais il y a des défis importants que nous devons finalement relever. Sur les 25 000 kilomètres de voies d'eau navigables, comme vous le savez, Tati, la question de l'entretien et de l'aménagement de ces voies pose suffisamment de problèmes. Que ce soit pour les chemins de fer, quand vous quittez Lubumbashi, vous allez vers Ilebo, vous allez voir l'état dans lequel se trouvent les rails qui datent pratiquement de l'époque coloniale. Donc, le financement en ce qui concerne l'entretien et l'aménagement de ces voies pose problème. Mais la question la plus importante qu'il faut se poser, où faut-il trouver des ressources pour entretenir et aménager les voies d'eau et les chemins de fer?
Entretenir en permanence et aménager en cas de besoin.
Bien sûr,
en permanence. Réparer en cas de besoin.
Oui, en cas de besoin. S'il y a une érosion qui se déclare sur la voie ferrée, il faut intervenir le plus rapidement. Mais où est-ce qu'il faut-il trouver des ressources? Depuis très longtemps, nous étions habitués à déposer des programmes, des projets pour demander l'argent à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à demander l'argent aux ambassades et n'importe où. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas un État aujourd'hui qui est là pour mettre de l'argent chaque fois à la disposition de la République démocratique du Congo pour entretenir ces voies d'eau navigables, mais également les chemins de fer. Donc, il est important que la République démocratique du Congo mobilise ses propres ressources pour entretenir les chemins de fer et les voies d'eau navigables en République. Donc, vous avez suivi très récemment ici, la régie des voies fluviales devrait faire
le balisage. Ça s'est arrêté à mi-chemin parce
qu'il n'y a pas de ressources. C'est vrai que les balisaires ont été, pour la construction des balisaires, étaient financés par l'Union européenne. Faut-il aller de nouveau à l'Union européenne pour demander l'argent?
Pour la maintenance ou l'entretien?
Pour la maintenance, pour l'entretien, pour le fonctionnement? Non. Personne ne vous prendra au sérieux.
Donc, et au niveau de l'agence, professeur, vous avez réfléchi sur des solutions pratiques.
Très bien. Il y a des réflexions qui ont été menées. Donc, l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, depuis 2021, avait réuni les experts pour réfléchir sur la problématique de la navigation et de la circulation au niveau des chemins de fer en République démocratique du Congo. nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle, pour que nous puissions entretenir dans la durée, et en tant que peuple, en tant que citoyen, nos voies d'eau et le chemin de fer, nous devons mobiliser nos propres ressources. C'est ainsi qu'on a eu l'idée de créer ce que nous appelons le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. L'objectif de la création de cet établissement public, c'est de mobiliser les ressources nécessaires qui devraient aider les structures qui vont aller sur le terrain pour entretenir et aménager les voies d'eau de notre pays. Donc, les textes pour la création de cet établissement que nous avons appelé le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires ont été rédigés depuis 2021. Donc, le morceau du travail, les éléments nécessaires pour la mise en place du fonds d'entretien ont été déjà disponibilisés depuis 2021. Mmh. C'est ainsi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
Parce que vous êtes une agence de transition écologique et de développement durable, donc cela ressort de vos compétences de proposer des projets, des idées novatrices dans les domaines des transports, dans presque tout le domaine du développement communautaire ou de la vie.
Exact. Donc, la mission de l'Agence congolaise de la transition écologique, c'est d'élaborer les politiques publiques pour la transition écologique en République démocratique du Congo. Donc, on ne peut pas parler du développement durable sans parler du transport. Donc, les transports, tout ce qu'il y a comme réflexion à ce qu'on sait, les politiques publiques dans le secteur des transports, revient de la responsabilité également de l'Agence congolaise de la transition écologique. Mais l'agence n'a pas pour mission de créer un établissement public.
Non.
Nous menons des réflexions et nous prenons les réflexions, nous les mettons à la disposition de ceux qui ont le pouvoir de décider. Ceux qui ont le pouvoir de décider, vous venez de dire, c'est le gouvernement. Mm. C'est pourquoi tout ce qu'il y avait comme texte, c'est-à-dire les décrets portant création et opérationnalisation du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, la proposition de l'arrêté interministériel qui fixe les ressources, les modalités de collecte et la répartition des ressources, tous ces deux éléments, tous ces deux textes, parce que ce sont les deux textes.
Oui, un petit rappel des faits, professeur, depuis 2019, vous avez commencé.
2021, ok. Donc, depuis 2021, nous avons rédigé les textes qui devraient aider à l'opérationnalisation du FONEF. Et comme l'agence, tout comme la présidence, n'a pas le pouvoir de créer un établissement public. C'est le gouvernement qui a le pouvoir, c'est le gouvernement qui gère au quotidien la République. Nous avons, parce que ce travail, il faut le préciser, Tati, ce n'est pas l'agence celle qui a travaillé. Nous avions réuni les experts des ministères sectoriels du monde académique, de la société civile, la Fédération des entreprises du Congo, la société civile. Nous tous, nous étions impliqués dans l'élaboration de ces textes qui devraient régir le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Depuis 2021, les textes avaient été déjà transmis au gouvernement de la République pour des dispositions utiles. C'est ainsi que quand vous lisez le programme présenté par l'ancien Premier ministre Sam Malokonde, à la page 35, je crois que la deuxième ou troisième phrase, il parle de l'opérationnalisation du FONEF. Donc le gouvernement avait déjà reçu le document et le gouvernement avait inscrit la création du FONEF parmi des actions à mener. Malheureusement, 4 ans après, aujourd'hui nous sommes en 2025,
presque au milieu de l'année.
Et rien n'a été fait jusque-là. Vous avez suivi le président de la République depuis déjà 2021, en décembre. 2022, 2023, 2024, récemment ici.
Dans son discours État de la Nation,
sur l'État de la Nation. Prenez ce discours, lisez. Le président de la République est revenu. Il a instruit de nouveau le gouvernement. Pendant 4 ans, il ne revenait que sur ça aussi. Il n'a pas mis de côté le dossier du FONEF. Il faut opérationnaliser le FONEF pour que nous puissions mobiliser les ressources
À
l'interne. On ne va pas se développer avec les pays d'argent qu'on trouve à la Banque mondiale, au Fonds monétaire. Mais aujourd'hui, la question, par exemple, de la route. C'est vrai qu'il y a un problème de management, de gestion, de tout ce qu'il y a comme péage. Mais au moins, ça permet que quand vous devez quitter Moanda jusqu'à Tshikapa, là où la route est un peu asphaltée, c'est quand même praticable.
Parce qu'il y a un mécanisme mis en place qui mobilise des ressources pour la réhabilitation.
Très bien.
Des routes par les biais des péages qui sont implantés sur les routes nationales.
Exact. C'est ça aussi qu'on a pensé pour les voies fluviales et les voies ferroviaires. Et quand vous devez lire le compte-rendu de la 109e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 18 août 2023. Ça, il y en a sur Internet, vous pouvez trouver le compte-rendu. Le président est revenu encore sur le FONEF. Il a instruit le Premier ministre de l'époque d'accélérer la mise en place du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Si je prends seulement août 2000...
Alors, on parle d'accélérer, on est en 2023, là on est en 2025, ça n'avance pas.
Il n'y a pas d'accélération, il n'y a rien qui a été accéléré. Parce que ça fait 2 ans près, il n'y a rien qui a été... Et comme les textes ont été déjà rédigés depuis 2021, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc nous étions obligés de revenir sur les textes, surtout que le président est revenu encore sur la création du FONEF. Nous, en tant que service du président de la République, on devrait reprendre les dossiers, cette fois ici pour
enrichir, actualiser les données.
Très bien, pour actualiser les textes. C'est ça qui a été fait très récemment, le vendredi dernier, où nous avons réuni les experts qui avaient participé à la rédaction du projet de décret, tout comme de l'arrêté interministériel. Nous les avions de nouveau réunis.
Également les recommandations du chef de l'État.
Les recommandations du chef de l'État en disant tout ce qu'il avait dit pour intégrer tous les éléments.
Les discussions au conseil des ministres, tous les différents groupes des ministres, voilà.
Exact, Tati. C'est pourquoi nous avons pris tous ces éléments, tout ce que le président de la République, ses instructions, tout ce que le gouvernement a dit déjà dans le conseil des ministres. Nous avons intégré tous ces éléments, les textes ont été actualisés. Je crois que aujourd'hui les experts sont encore à pied d'œuvre, sont en train de travailler pour finaliser la dernière mouture qui devrait être transmise, que ce soit au cabinet du président de la République, au gouvernement, pour que des dispositions utiles soient prises. Parce que c'est une instruction du président de la République. Devoir du gouvernement de réaliser ce que le président a donné.
Voilà. Avant d'aborder les aspects liés aux innovations ou à l'enrichissement que vous avez apporté à ces projets, permettez-nous d'aller au standard parce que l'émission, elle est à téléphone ouvert. Donc, il y a des auditeurs qui veulent également prendre la parole, qui veulent également prendre la parole. Drôle, donc on va aller au standard. Monsieur Achille, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Tati, bonjour à l'invité, bonjour tout le monde.
On vous donne la parole.
Non, merci pour la parole. Je pense vous parler de la modernisation des voies ferrées et voies fluviales. Bon, allô?
Allô, nous vous recevons, allez-y.
Oui, bon, moi je me demande si notre pays n'était pas colonisé. Je pense qu'on n'aurait même pas les chemins de fer que nous avons aujourd'hui. Parce que il faudra peut-être attendre longtemps pour parler de la modernisation. Dieu nous a donné un très beau pays. Nous avons des très 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 mauvais dirigeants. Donc, si vraiment on avait des bons dirigeants, sinon on ne parlerait pas de quoi. On ne se retrouverait pas vraiment dans la situation où nous nous retrouvons aujourd'hui.
Oui, mais Achille, s'il vous plaît, mais ils sont là. Pourquoi vous êtes si pessimiste?
Je suis pessimiste, je ne m'explique pas que dans ce pays, on nous a promis beaucoup de choses. Il y a trop de discours qui ont été prononcés. On nous a promis l'Allemagne de l'Afrique. On nous a promis les militaires, une fois les militaires auront des maisons de voitures. On va construire des universités par-ci, par-là. Bon. Si les discours prononcés là, c'était des faits, je pense qu'aujourd'hui, la RDC serait déjà au paradis, il serait même un paradis. Alors, moi, je suis pessimiste et je resterai pessimiste jusqu'à cette génération pour passer parce qu'on nous a trop promis, mais rien n'est fait. Si vous essayez de constater l'argent qui est détourné et l'argent qui est censé faire les travaux, bon, vous-même, vous avez la réponse. Il y a des ministres qui sont passés là-bas, qui ont même témoigné que non. Quand il y a l'argent des projets store, on se distribue et après on réfléchit après. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont ceux qui ont dirigé qui l'ont dit, n'est-ce pas? Bon, pour le moment, il faudra vraiment attendre longtemps. Toutes les théories que l'invité est en train de dire là, bon, c'est juste une lettre morte, ça n'apportera rien du tout. Il faudra peut-être attendre très longtemps parce que nous sommes vraiment fatigués.
Monsieur Achille.
Il n'y a rien du tout.
Oui, Monsieur Achille, dans l'existant, vous connaissez Foner, non, qui fait la collecte des fonds pour l'entretien des routes, vous voyez des postes de péage et autres. Ne pensez-vous pas que ça serait aussi mieux de développer les mêmes types de services, cette fois-là pour les voies fluviales et la piste et ferroviaire?
Oui, je connais Foner, mais l'argent qui sera financé, ça sera détourné. Par ceux qui dirigent, par ceux qui sont. Ça sera détourné. Donc, ça ne rassure pas, monsieur. Parce que vous savez, quand M. Kabila est venu au pouvoir, il n'avait pas demandé beaucoup de temps pour essayer un peu de donner du sourire à la population. C'était peut-être dans 3 ans déjà, bon, les gens commençaient à sourire. Mais imaginez, après sa mort, bon, c'est la galère. on est toujours frustré, on est toujours dans des stress, donc rien n'avance. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on viendra nous dire qu'on viendra nous flatter. Nous sommes déjà des grandes personnes, ce sont pas des discours qui vont faire ce que nous changeons, ou bien des très bons poèmes copiés quelque part et puis viendront nous dire non, ça va rien changer. Tant que moi je reste vraiment pessimiste.
Merci beaucoup, Monsieur Achille. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Professeur, comment réagissez-vous? Oui. Achille, il est très pessimiste.
Oui, mais je comprends cet agacement. Je comprends cet agacement. Il a parlé de détournement, il a parlé de promesses, il a parlé non, même si le fonds neuf est créé, les gens vont. Non, il faut. Je comprends pourquoi on arrive à ce niveau. Mais il faut pas développer ce comportement d'un fait accompli. C'est-à-dire dire, bon, ici chez nous, on détourne l'argent.
Négativité.
Ici chez nous, on ne fait rien, on va attendre longtemps. Et si on adopte ce comportement, sinon, il faut demander à la République de disparaître parce que la République n'existera plus. Le plus important à faire, c'est redonner confiance pour que les choses avancent. Il y a quand même des changements. Si réellement, on détourne tout, sinon, le FODER ne saura plus entretenir la route de Moanda jusqu'à Tchikapé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Il y a des détournements. Tous les jours, les gens en parlent. Mais quand même, il y a quelque chose qui reste dans la caisse. Le travail qui va être fait, ce n'est pas celui de se résigner. Le travail qui doit être fait, c'est celui de militer pour que la justice fasse réellement son
travail. Des concrets, vous êtes réunis. Quels sont les aspects nouveaux qui ont été amendés dans le document?
Dans le document, il y a... D'abord, il y a beaucoup des dispositions des lois qui étaient amendées, les ordonnances nommant les ministres, les ordonnances nommant le premier ministre, ça il fallait travailler. Il y a également une discussion importante qui devrait se faire sur la redevance logistique terrestre, c'est-à-dire c'est une redevance qui est prélevée sur tous les conteneurs qui entrent et qui sortent de la République démocratique du Congo. Finalement, les ressources sont gérées dans la partie sud-ouest parce que c'est la SNCC ici, dans la partie ouest, c'est l'ONATRA qui gère les chemins de fer. Donc, il y a une discussion sur la redevance logistique terrestre.
Oui, mais vous allez empiter ces redevances
non.
à la SNCC.
Non, ce n'est pas empiter. C'était ça le grand débat d'ailleurs. Alors, ce n'était pas pour empiter parce que la redevance logistique terrestre, elle est déjà prélevée. Vous avez vu là où on a réhabilité la voie?
Je me rappelle pas.
C'est 140 dollars par conteneur qui entre ou qui sort pour la redevance logistique terrestre. Alors je vous pose, c'est pour aménager la voie. C'est pas de l'argent pour se distribuer. C'est pas de l'argent pour payer. Vous allez prendre l'argent, vous commencez à payer les fonctionnaires pour la redevance qui devrait servir pour l'entretien de la voie. Et demain, ils vont être payés comme parce que finalement, les conteneurs, ça prend quelle voie? Au lieu que les conteneurs puissent prendre la voie même du chemin de fer,
mais
ça prend. La voie routière, c'est pourquoi même les routes ici ne traînent pas. Oui. Les gens se plaignent, voilà, des tonnages. Mais non, il y a des gros tonnages qui ne devraient pas passer à travers la route, qui devraient passer par les chemins de fer.
Exactement.
Mais on ne fait pas ça. Donc la redevance logistique terrestre était destinée ou est destinée pour l'entretien de la route. C'est pourquoi nous avons pris cette redevance, nous l'avons intégrée parmi les ressources du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires.
Et en dehors de cette redevance, il y a d'autres sources de mécanismes de financement?
Oui, bien sûr, il y en a. Vous avez par exemple le Green Pass. Chaque passager qui monte par exemple sur une unité flottante, soit sur les trains, dans son billet, alors il y a un petit montant de 0,0$ qui va être versé pour les comptes du fonds neuf. Il y a également la redevance sur les produits pétroliers qui sont consommés par les unités flottantes et les chemins de fer. Il y a un montant qui va être versé vers le fonds neuf
pour avoir des ressources. Mais là, vous allez également sur le terrain de la RVF, ça risque d'être compliqué.
Non, mais
de revenir à la RVF, il y a beaucoup de problèmes.
Vous avez dit ici que la RVF a tenté de faire le balisage, ils se sont arrêtés en route.
Oui.
Et en même temps, vous dites que vous êtes en train de prendre les ressources de la RVF. Donc, il faut avoir le courage de dire que les structures habilitées à entretenir, à ménager le voie d'eau, tout comme les chemins de fer, n'ont pas de ressources. L'objectif de la création du fonds neuf.
Non, mais les ressources sont là. Vous avez évoqué la redevance.
Oui, mais ça prend quelle direction?
Ben, ça, c'est la question à se poser.
C'est pourquoi le fonds neuf prendra toutes ces ressources qui sont collectées et les ressources que nous avions créées pour avoir un fonds commun où la régie de voies fluviales, qu'on appelle la CVM, la Congolaise des voies maritimes. Vous avez par exemple l'ONATRA et d'autres structures qui sont impliqués dans l'entretien et l'aménagement des voies, plus avoir des ressources nécessaires pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises ou ces établissements publics n'ont pas de moyens nécessaires pour faire le travail. Le contrôle est inexistant.
Et sur... on documente des cas de noyade, des cas de naufrage couramment, et le fleuve, il n'est pas balisé, et la situation, elle est très complexe, professeur.
Oui, la situation est complexe, mais je crois que avec la création du FONEF, comme c'est déjà acté dans l'un des comptes rendus du Conseil des ministres, et comme c'est déjà une instruction du président de la République, le FONEF sera normalement créé.
Non, mais honorable Samalou Kondé, il a quitté le gouvernement, maintenant il est président au Sénat. Du Sénat.
Ah oui.
Mais est-ce que la dame, la première ministre, ça a été évoqué également? Est-ce qu'on a remis les dossiers sur la table?
Oui, les dossiers sur la table. C'est vrai que c'est le premier ministre Samalou Kondé qui a fait quand même longtemps.
Oui, devrait, mais et puis au nom de la continuité.
Au nom de la continuité, je crois que c'est madame Judith Souminois qui va créer le fonds, parce que c'est dans l'un des comptes rendus du Conseil des ministres, et le président de la République est revenu à plusieurs reprises sur la question de la... Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Le gouvernement lui-même parle de la création du FONEF, mais sur le terrain, il n'y a rien. Pourtant, les outils nécessaires pour créer le FONEF sont déjà disponibles. Mais maintenant, quel est le travail qu'on est en train... Pour que les gens n'aient plus d'autres arguments pour dire « Non, bon, vous voyez, le FONEF sera là. » Non, nous sommes en train de travailler sur l'actualisation des textes qui régissent la navigation et les chemins de fer. Comme vous le savez, ces deux secteurs sont régis par un arsenal juridique qui date de l'époque coloniale.
Vous avez... Même les infrastructures n'ont pas suivi, hein,
oui, c'est resté aussi. Donc les choses n'ont pas évolué. Comme le FONEF va évoluer dans un environnement qui a sérieusement évolué, qui n'est pas celui de l'époque coloniale, donc nous sommes dans l'obligation d'actualiser les textes, le code de navigation, d'actualiser également les textes, les lois sur les chemins de fer. Donc ça, c'est le travail que nous allons faire dans les tours prochains jours, pour que les gens n'aient plus d'arguments pour dire non, bon, voilà. Donc tous les outils seront mis à la disposition du gouvernement. Je voudrais rassurer notre ami qui dit qu'il n'a pas lié d'espoir. Il y a des choses, il y a des responsabilités qui sont très bien partagées. Nous avons fait notre part du travail. Mais je vous dis aujourd'hui que ça fait 4 ans. Un travail qui devrait durer, si c'est maximum une année, l'établissement est créé. Mais chez nous, ici, ça nous prend combien d'années?
On est dans les 6 à 7 ans.
On est dans 4 ans sur les dossiers où tous les outils sont là.
Les réflexions ont commencé en 2019.
Les réflexions, c'est déjà en 2019. Ah. Les textes ont été déjà disponibles en 2021. Tout est là, mais rien n'a avancé.
Ça ne doit pas prendre 10 ans quand même.
Mais je vous dis, par exemple, surtout qu'on était déjà très avancé dans le travail de la création, par exemple, de la Banque Verte, qui devrait partir de 2021 à 2020. C'est en 2026 qu'on devrait créer la Banque Verte. Ça devrait être une grande institution financière nationale à caractère international qui devrait mobiliser la finance climatique et carbone pour le projet de développement en République démocratique du Congo, mais également en Afrique centrale. Ça devrait nous prendre 5 ans. Ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, si déjà les FONEF qui devraient nous prendre un mois, une année
tout
ça
au plus,
nous prend déjà 4 ans, il n'y a rien. Donc pour la Banque Verte, ça pouvait prendre 100, 200, 300 ans.
Alors qu'on est dans la transition énergétique, il faut
les choses avancent.
Nous, on n'avance pas.
Les choses avancent avec une vitesse inimaginable. Mais peut-être que nous ici, nous pensons que le monde nous attend, l'humanité nous observe. Nous pouvons, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, on peut faire ça après 10 ans. Pour nous, ça ne nous dit rien.
On retourne au standard, professeur. Il y a Serge Toukila qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Serge, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste.
C'est le prof Serge.
Ah, d'accord. Nous vous recevons. On vous écoute.
Je vous salue d'abord. Je salue également les éditeurs de Radio Okapi. Je salue le professeur Ninengo. Je dis, moi-même, je participais à ces travaux-là. Il y avait une très forte équipe de l'Université de Kinshasa. Il y avait également une bonne équipe de l'administration publique. Ça, je félicite notre administration. Je me dis que les travaux étaient bien faits. Et j'encourage et je soutiens le professeur Minengo. C'est un grand travailleur, ça je le dis.
Oui, mais en même temps aussi, professeur. Les projets, les fonds, ils peinent à être matérialisés. C'est bien beau d'élaborer des textes et puis quand ça n'avance pas, c'est décourageant.
Tout à fait. Le plus grand problème, c'est la ressource, le temps qu'on n'a pas pris en compte. Le professeur Minengo est en train de souligner ça. On peut avoir toutes les ressources. Mais si on ne tient pas compte de l'utilisation du temps, je pense que de 2021 plutôt à 2025, c'est quand même trop, c'est tout un mandat.
Oui. Et puis les réflexions, et puis professeur, les réflexions remontent de 2019, si j'ai un bon
bien
mémoire.
Sûr, bien sûr. Et vous voyez, les profs Minengo ont évolué plus dans ces domaines-là aussi. Ils maîtrisent bien la mobilité, surtout la mobilité nationale. Moi, je pense que certains problèmes qui se posent, même dans la ville de Kinshasa, seraient déjà résolus sur le plan socio-économique. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons des embouteillages dans la ville de Kinshasa, alors que nous avons des trains qui peuvent sillonner ici. On en a même parlé.
Oui.
Et il y a un élément plus important qu'il avait souligné également, l'interconnexion. Aujourd'hui, on parle de multimodal, interconnexion. C'est que le problème de Kinshasa de l'embouteillage ne serait pas résolu en se référant aux plaques de type impair, de type pair, tout ça. Je pense que les problèmes trouveraient solution à partir des problèmes de résolution, par exemple, de cet établissement de fonds d'entretien. Et aussi, je regrette parce que la Banque verte devrait financer même toutes ces opérations-là. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'en parler. Je ne sais pas. C'est que si le chef de l'État revient sur ça, il comprend l'importance de tout ça.
Et puis, dans cette
mobilité urbaine, et puis,
professeur, et puis dans cette multimodalité, il y a également la dimension création des emplois à travers la République.
Tout à fait. En fait, on peut même créer plus d'emplois parce que vous voyez, les transports de biens, les transports des hommes, soit les systèmes intégrés. Ça peut y prendre en compte l'utilisation de beaucoup de main d'œuvre en amont tout comme en aval.
Oui, et stopper également l'exode rural, hein, constaté, vécu, qui saute aux yeux ici à Kinshasa.
Les gens peuvent quitter Kinshasa pour aller habiter finalement. Moi, je serai les premiers peut-être, parce que les transports ne seraient plus un problème.
Oui.
Ah, mais oui.
Oui, oui.
Les problèmes ne seraient plus de... Le transport ne poserait aucun problème. Je serai à Kinshasa de temps en temps venir ici enseigner.
Travailler à Kinshasa et puis retourner calmement.
En fait, voilà. En fait, nous, on ne sait pas avancer parce qu'il y a quelque part, certaines décisions sont bloquées. Ça ne peut pas évoluer. Tel que nous avons travaillé avec le professeur Minengo, je le soutiens, je l'encourage, je ne peux pas te fatiguer. Ça nous a pris du temps. On s'est réveillé parfois à 4 heures, ils vous appellent. Professeur Toupila, nous y allons. Aujourd'hui, il y a tel entretien. Vous allez là-bas, à 23 heures, vous quittez l'immeuble Panda. Vous quittez à ces heures-là. Parfois, vous n'avez pas les moyens de déplacement. Vous êtes à l'arrêt. À ces heures-là, à quel prix? Mais c'est regrettable que pour matérialiser ça, ça devient un problème. Moi, je pense que le pays doit évoluer. Professeur, les travaux doivent continuer. Peut-être que les chefs pousseront encore fort pour qu'on y arrive.
Merci. On les considère comme une contribution. Merci beaucoup, professeur, et excellente journée. On retourne ici à Kinshasa. Non, nous allons plutôt à Kisangani. À Kisangani, il y a un auditeur qui attend. Il s'appelle Thomas. Bonjour et bienvenue. Monsieur Thomas.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour, monsieur Tati. Et bonjour à l'invité et une fois de plus à tous les auditeurs de la radio Okapi. Monsieur Tati, en tout cas, la modernisation des transports fluviales, mais aussi ferroviaires, ici au pays, c'est vraiment une étape essentielle pour même stimuler le développement économique. Mais vraiment, ça peut même faciliter, en tout cas, les échanges commerciaux à l'intérieur, mais également régionaux, mais c'est-à-dire. Et ceci, ça peut toutefois également contribuer au désenclavement même de certaines nombreuses zones du pays. C'est-à-dire, c'est très important, on doit en tout cas stimuler cet aspect des choses-là, parce que ça peut également stimuler même le développement économique, je disais tantôt, mais vraiment ça facilite l'accès, c'est-à-dire les échanges là, commerciaux, à l'intérieur ici. Et ça peut désenclaver aussi certains du pays qui restent en tout cas désenclavés par, permettez-moi la tutorie, c'est parce qu'on n'a pas encore résolu cet aspect des choses également. Par rapport à ce qui est parlable, M. Tati, de la réhabilitation et la modernisation, il faut qu'il y ait, à cet aspect, il y a d'abord la réhabilitation et la modernisation des infrastructures. C'est très important. C'est-à-dire, pour les réseaux, par exemple, ferroviaires, je crois qu'il faut qu'on puisse réparer carrément, par exemple, les lignes existantes qui existaient déjà, par exemple, la NCC dans les Kanangal. Je ne sais pas. Oui.
Non, il n'est même pas question de réparer, il faut carrément refaire. Il faut carrément refaire sur les normes internationales.
Voilà, c'est
parce
ça.
Parce que d'une part, cher auditeur,
cet aspect des choses,
oui, parce que d'une part, s'il vous plaît,
par exemple, NCC des Kananga et des Matadi qui sont Kinshasa, on doit voir cet aspect des choses, mais également électrifier partiellement certaines ces lignes-là, ça doit être fait. La modernisation également des gares, messieurs Tati, c'est très important. On ne sait pas si qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Il y a des détournements qui se font, mais on ne songe pas au transport multimodal. C'est très important cet aspect des choses. Il y a des détournements qui se font ici, mais il y a des choses qu'on doit aussi faire. Mais si les plans, par exemple, des voies fluviales, il y a la construction et la rénovation des ports fluviaux. Ça, c'est très important.
Mais nos ports-là ressemblent, je ne sais pas moi.
Mais les tronçons.
Nos ports publics et privés, là, ce sont même pas des ports, ce sont des quais, là, où les baleiniers viennent accoster. Ça ne répond à aucune norme.
On va construire, monsieur Tadi. On n'a pas des choses là. On doit construire et la rénovation des ports fluviaux. Est-ce qu'on en a dans ce pays? Par exemple, Kinshasa, Kisangani, Mbandaka, etc. Tous ces ports, on doit en tout cas rénover cet aspect des choses. Carrément construire. On ne doit pas être. On ne doit pas reculer jusqu'à l'âge de la pierre taille quand même. Mais également, il y a le drainage des fleuves, monsieur Tadi. Parce que vous savez, on a des fleuves, on a le fleuve Congo, il y a le Sikasai là-bas, il y a le Lualaba également. Pour améliorer, ça aura comme effet l'amélioration de la navigabilité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le drainage là des fleuves. Il y a le fleuve Congo, il y a le fleuve Kasai là-bas. Tout ça, on doit s'appliquer également dans ça. À ce qui est pas, nous aussi, on ne peut pas reculer jusqu'à ce niveau. Il y a, par exemple, l'acquisition des matériaux modernes, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on a des trains dans ces pays également? Ça, on dit, quelque chose, on doit soigner sur ça. Il y a l'acquisition des matériaux roulants modernes, quand même. Hein? Est-ce qu'on a des trains dans ces pays? L'achat, on doit acheter les trains dans ces pays également. À ce qui est des bateaux, est-ce qu'on a l'acquisition
des barrages
motorisés? Ça, on dit, tout ça, ça doit être à ligne des comptes, mais c'est-à-dire. Deuxième point également, c'est aussi à ce qui est des renforcements
des institutionnels
et des cadres juridiques. Je crois qu'il faut qu'il y ait des réformes des sociétés publiques, des transports, par exemple la NCC, pour rendre en tout cas plus efficace également, mais également lutter contre, pour résoudre des petites questions-là, de la question, par exemple, de la transparence également. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait également les réformes des sociétés publiques des transports. Il faut également qu'on puisse l'adoption d'un cadre, en tout cas, réglementaire, qui pourra en tout cas éclairer, qui pourra en tout cas, pas soit même éclairer les systèmes de navigation à l'intérieur du pays. C'est très important. On doit songer au renforcement du cadre juridique à tasser. Mais j'ai des questions que j'aimerais poser à l'invité, monsieur Tati. À l'invité, oui. Quelles sont en tout cas les capacités des transports actuels pour les voies fluviales et ferroviaires en Indonésie? Je ne sais pas si quelles sont les capacités des transports actuels à terme de tonnage ou de volume. Je ne sais pas si ça, qu'est-ce que l'invité pourra nous donner à ce moment. Deuxième question, quelle est la performance actuelle des opérations, des opérateurs publics comme la NCC et les consorts? Je ne sais pas quelle est la performance actuelle des coopérations, des coopérateurs, pardon, publics comme la NCC, la SNCC, voilà. Mais également, j'ai parlé au tout début là des questions écologiques, j'ai parlé que on doit bien gérer le secteur des transports parce que c'est aussi l'économie du pays. Je ne sais pas, pour réparer ou pour construire les tronçons que je venais à peine de parler de Kananga, par exemple, la ligne là, je ne sais pas quel est le coût
qu'on peut estimer, si c'est l'argent qui marque, nous tous là, on peut contribuer. Quel est le coût qu'on peut estimer pour la modernisation des infrastructures existantes? Lorsqu'ici, construire ce qui est construit d'abord la nouvelle,
ça
pose des problèmes.
Ça, c'est
carrément réhabilité, je ne sais pas à terme des coûts. Quel est le coût qu'on peut estimer pour la modernisation carrément de ce qui existe d'abord? On ne soigne pas d'abord ça, ce qui... Parce que c'est comme si construire la nouvelle, là, ça pose des problèmes. Mais quel est alors... ce qu'on peut faire à terme de devis pour construire d'abord ce qui existe là. C'est ça un peu mes trois petites préoccupations que j'avais à l'éviter, monsieur Tati.
Oui, parce que le fonds, il est public, donc tout le monde peut cotiser hein, pour la mise en place également. Si l'État traîne les pas, donc tout le monde peut cotiser. C'est une très bonne idée.
C'est une bonne idée.
Mais en même temps aussi, il faut souligner dans la multimodalité, ce que vous avez relevé, cher auditeur, c'est très capital parce que il y a déjà, d'une part, les projets de construction des corridors de l'Obito. Donc, les voies ferrées dans le Nord vont venir jusqu'à l'entrée de l'RDC. Et puis, à l'interne, il n'y a pas de connectivité. Ça, c'est de la folie, quoi. C'est pas possible.
Oui.
On va, cette fois-ci, aller à Bandundouville pour donner la parole. On va relancer Patti. Comment répondez-vous à chaud à notre auditeur de Kisangani?
En tout cas, je commence d'abord par le prof Serge Toukila. Comme il a dit, c'est parmi les experts de l'Université Kinshasa qui ont contribué avec beaucoup plus d'efficacité à la rédaction de propositions de textes portant création et opérationnalisation du FONEF. D'ailleurs, les premiers travaux avaient démarré à l'Université de Kinshasa. Donc, c'est un travail qui a connu la participation de plusieurs équipes de l'université, de l'administration, de la société civile et de la Fédération des entreprises du Congo. Donc, merci beaucoup. Le travail est là. Nous devons toujours continuer, surtout que le président de la République est revenu à plusieurs reprises, a instruit le gouvernement pour que le FONEF soit opérationnalisé. Et nous, en tant que service du président de la République, surtout que les outils sont là, nous allons continuer à maintenir la pression sur le gouvernement pour que le FONEF soit opérationnel, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Si le gouvernement a une autre alternative, ça va. Mais tant que le gouvernement n'a pas d'autre alternative et que le gouvernement a déjà inscrit la création du FONEF parmi ses priorités, nous continuerons à travailler toujours avec le gouvernement pour que le FONEF soit opérationnel. Parce qu'il ne faut pas attendre que les gens meurent là-bas pour dire non, voilà, le gouvernement est en train de compatir.
On documente presque tous les jours des cas de noyades et de naufrages, des déraillements des trains, tout ça.
Et on voit des gens avec des vestes, avec des chemises pour dire que nous sommes en train de compatir. Pourtant, on pourrait éviter ces noyades si les voies étaient balisées, s'il y avait un contrôle qui se réalisait normalement sur les voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo et sur les chemins. Je voudrais revenir sur notre ami Thomas qui a dit quelque chose quand
même. Excusez-moi, professeur, on retourne au standard et puis on va revenir.
Très
ici, il est à Bandundouville, il s'appelle Patti. On vous donne la parole.
Il a dit quelque chose quand même, professeur.
Monsieur Patti, vous me recevez?
Oui, je vous reçois 5 sur 5, cher Tati.
On vous donne la parole.
D'accord, merci de la parole octroyée. Je me demande qui donne autorisation même à le navire qu'on a ici appelé dans le jargon, c'est le Daka-Daka.
Ibora.
Il y a une série de baleiniers, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont des histoires en bois qu'on a collé, on prend
les
un
radeaux.
Moteur de moulin, on met là, et quand le moteur est en marche, c'est toute l'histoire qui vibre. Donc, vous avez, même les entrailles qui sont en ébullition. Je me demande qui donne autorisation à ce genre
à ces embarcations de naviguer.
C'est un outil ou en cascade.
Okay.
Cher Tati, vous voyez la distance qu'il y a qui était chez vous là, à Kinshasa, jusqu'à arriver à Kikwiti. Et la distance qui sépare Ilebo ou Mweka à Kananga. Mweka et Kananga, c'est une faible distance par rapport à Kikwiti et Kinshasa.
Tout à fait.
Mais cher Tati, je vous dis, en 2019, j'ai fait Kananga, Mweka, plus de 2 semaines. Dans leurs histoires là, les trains, je vous dis, les patinages que vous n'avez pas l'idée. Donc, vous n'imaginez pas que ça, je suis dans une brouette en train d'aller quelque part ou je suis dans un engin. Je vous dis, vous faites une marche en avant. Vous faites, par exemple, 10 mètres. Mais quand l'histoire se coupe, elle vous fait marcher en arrière 60 mètres. Imaginez-vous. Donc,
des conditions lamentables. Mais
dans notre temps, nous avons les gens qui se disent, ils sont des autorités de ce pays ici. Quand ils le font ailleurs, ils disent, il paraît, ils sont pour construire ce pays. Mais il manque quoi dans ce pays ici pour revoir cette histoire-là des rails? Je vous dis, quand vous voyez les rails, et aussi, nous aussi, population, la manière dont nous construisons. Les tronçons que je vous parle là, cher Tati, si vous venez avec votre caméra ou avec vos micros baladaires, vous allez voir comment les gens ont construit. Vous ne verrez même pas les rails et où la parcelle de quelqu'un, la clôture, là où il a semé sa clôture, ça se trouve où? Confondu. Les trains viennent passer même devant la parcelle de quelqu'un. Ça ne voit pas. Est-ce que après l'indépendance, plus de 60 ans après, sommes-nous capables à continuer à gérer ce pays ou carrément il faut faire une lettre ouverte, une lettre de démission, rappeler c'est là qui nous avait colonisé, leur dire nous vous demandons pardon, vous nous avez laissé le pays, mais nous ne sommes pas messieurs, venez reprendre encore. Est-ce que c'est pas moi qu'on fasse ça?
Non, on ne peut pas réguler 60 ans plus tard. Non, pas du tout. Merci beaucoup, cher auditeur.
Mais ça, c'est la honte. Il faut éviter un courage d'ascendant comme ça.
On a compris.
On ne fait rien.
Merci d'accord, beaucoup, cher Patrick. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bandundu que vous intervenez. Professeur, à vous la parole.
Oui, merci. Et j'allais terminer avec Thomas. J'ai suivi, il a dit beaucoup de choses. Détournement, et ça c'est tout le monde qui en parle. Il n'y a pas. C'est que je voudrais donner comme précision par rapport à ce qui s'est dit tous les jours. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que les détournements sont documentés et sont connus. Les gens dénoncent ça. Ça, c'est une étape importante, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que les détournements ont commencé maintenant.
Ils n'ont pas existé
avant. Non, il y avait des grands détournements qui se faisaient, je m'excuse, Tati, mais qui n'étaient pas documentés, qui n'étaient pas dénoncés.
Les temps se grainent vite en même temps. Il a évoqué l'interconnectivité, la multimodalité. Et moi, j'ai fait allusion au corridor de Lobito.
Très bien. Rien là, j'ai réflexion.
Et les voies ferrées dans les normes vont arriver jusqu'à notre frontière et nous, à l'interne, il n'y a rien.
Très bien. C'est pourquoi je voulais. Il a parlé, par exemple, de trains, les réseaux ferroviaires qui existent. Non, c'est pas un réseau à réhabiliter, c'est un réseau à refaire. Il faut tout refaire. Parce qu'aujourd'hui.
Et pour refaire les réseaux, il faut mobiliser des ressources.
Il faut des ressources.
Ouais.
Vous pouvez imaginer que la République démocratique du Congo a adhéré à la zone de libre-échange continentale. C'est-à-dire, les trains peuvent quitter la Tanzanie, passer à travers la République démocratique. Ce n'est pas avec les rails qu'on a là à Lubumbashi. Ce n'est pas avec des rails qu'on a ici à Kinshasa.
Ce sont des rails en lambeaux d'ailleurs. Ce ne sont même pas des.
Donc, la République est sérieusement en retard par rapport à l'évolution de beaucoup de pays en Afrique.
Et nous devons en prendre conscience.
Les transports multimodaux. Il faut en prendre compte. Parce que quand je vois les gens perdre beaucoup de temps en train de discuter sur des choses extrêmement inutiles, pendant que les grands défis nous. Parce que qu'est-ce qui va arriver, Tati? Comme nous ne faisons pas pratiquement grand-chose, nous n'avons pas évolué à ce qui concerne la construction des chemins de fer et d'autres infrastructures, le risque est que, mais dans le cadre de la zone de libre-échange, il faut relier l'Afrique, mais les gens, comme les Américains, ils disent qu'ils vont construire les rails à notre place. C'est pas possible. Donc, nous devons nous-mêmes prendre les choses avant. Parce que les risques aussi, en dehors des Américains, les risques des autres États africains viennent construire les rails pour dire que, écoute, nous, on veut traverser la RDC pour aller vers le Sud-Soudan. Nous voulons traverser la RDC pour aller vers la République centrafricaine. Ici, chez vous, il n'y a pas de rien. Nous, on construit les rails. Parce qu'ils ne vont pas accepter que les choses se passent de cette manière. Donc, nous sommes dans l'obligation, ayant adhéré à la zone de libre-échange continue, de refaire carrément l'ensemble du réseau. Je suis d'accord avec notre ami Thomas de Kisangani, qui dit qu'il est prêt à contribuer. Ça, c'est une bonne approche. Les barrages de la Renaissance en Éthiopie a été construit avec la contribution des Éthiopiens. La Banque mondiale, tout comme les fonds monétaires internationaux, avait refusé de financer la construction du barrage. Mais les Éthiopiens ont cotisé $1, ceux qui avaient plus ont donné plus. Mais ils ont réussi, ils ont réuni les moyens, ils ont construit le barrage de la Renaissance qui a coûté des millions de dollars.
Exactement.
Donc, je crois qu'on peut le faire. Il a parlé des réformes. Oui, il faut faire des réformes. Surtout à ce qui nous concerne ici par rapport au débat.
C'est ce qui est en train d'être fait.
C'est ça qui est en train d'être fait. Nous avons, au niveau du ministère des Transports, une direction qu'on appelle la direction de la marine. Dans le contexte actuel, la marine ne peut plus être une direction au sein du secrétariat général. La marine devrait être transformée à un établissement public doté de pouvoir. Parce que c'est elle qui s'occupe du contrôle, des autorisations pour faire ceci et pour construire. Tout ça, c'est la marine qui s'occupe. Donc, quand vous allez à Brazza ici, les réformes ont été faites il y a plusieurs années. Mais la République démocratique du Congo, au 21e siècle, c'est toujours dans l'état. Regardez l'état dans lequel se trouvent les rats ici. Qui peut nous prendre au sérieux, Tati? L'état dans lequel se trouvent nos rats ici. Notre chemin de
fer. Le leader de Bandouville l'a évoqué.
Non, personne ne va nous respecter. Donc, il nous appartient, nous, en tant que citoyens, en tant que peuple, en tant que dirigeants, de travailler pour engager résolument la République sur la voie du progrès et sur la voie du développement. Il dit qu'il donne l'autorisation, mais il y a plusieurs structures qui interviennent, c'est pourquoi il faut des réformes.
Oui, mais est-ce que ces embarcations qu'il a dit,
les maritimes
sont contrôlées?
La direction de la maritime, la RVF, tout ça. Mais le problème, c'est que
on fait l'assemblage dans les villages et puis on jette dans les cours d'eau et puis voilà, on navigue et c'est tout.
Le vrai contrôle ne s'opère pas. Le seul contrôle qui se fait, c'est de payer les taxes ou de payer les redevances. Vous avez payé, votre unité ne répond pas à des normes, mais vous pouvez naviguer comme vous voulez. Donc, à travers les réformes qui sont en train de se faire, je crois que nous irons sur la bonne voie. Mais il faut éviter que les gens donnent le sentiment que nous sommes dans un chaos irréparable. Non, on n'est pas dans un chaos irréparable. Au contraire, c'est vrai que les transformations, ceux qui tirent profit de l'État ne vont pas accepter qu'on avance.
En même temps, vous écoutez, professeur, c'est depuis 2022, 2019 d'ailleurs.
Oui, oui.
Là, ça fait 5-6 ans. Oui. La bonne foi n'y est pas, tout simplement.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut se décourager, Tati. C'est vrai que c'est depuis 2021 que nous avions travaillé sur les textes pour les FONEF. Le gouvernement a récupéré même le projet.
Oui.
Il a inscrit ça dans son programme.
Oui.
Ils ont discuté ça lors des conseils des ministres. Mm. Mais sur le terrain, ils ne font rien.
C'est de la mauvaise foi, tout simplement.
Est-ce que faut-il se décourager pour ça? Non. Il faut continuer. Il faut continuer. Surtout que nous avons tous les éléments, tous les papiers. Mm. Nous sommes en train d'actualiser les textes. On va remettre ça. Il n'y a pas que ça. Aussi, pour nous, c'est un peu fatigant. On ne peut pas rester en train de faire quelque chose qui devrait se terminer en 2-3 mois, mais on passe 4 ans en train de discuter sur ça. Quand bien même le président donne des instructions pour qu'on aille de l'avant, mais il y a des gens qui estiment que non, il faut rester dans les statu quo et que rien n'avance. Et nous, on ne doit pas se taire, on doit continuer à dire voici ce que vous avez dit dans votre réunion des ministres, voici ce que vous avez écrit dans votre programme. Nous avons déjà fait l'essentiel du travail, et c'est écrit même dans les comptes rendus. Et les outils pour la création du FONEF ont été déjà dit. Ils ont même cité les structures qui ont participé à la rédaction de ce
site. Alors, en conclusion, professeur, quelles sont les recommandations?
Les recommandations, c'est que...
En quelques mots.
Nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Ce n'est pas un établissement de trop, comme les gens aiment dire. Ce n'est pas un établissement de trop, mais c'est un établissement qui doit mobiliser les ressources pour aider à l'entretien et à l'aménagement des voies d'eau navigables et des chemins de fer en République démocratique du Congo. Les textes existent.
Mm.
Les conseils des ministres en avaient parlé. Le président est revenu autant de fois sur la nécessité de créer le FONEF. Nous sommes sûrs, avec ce qui y a été fait le vendredi, nous sommes sur la bonne voie et le FONEF sera créé.
Merci beaucoup, professeur Jean-Didier Minengou. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Excellente journée. Et c'est par ici que nous clôturons ce rendez-vous du magazine Okapi Service que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Jean-Marc Matouaki l'a supervisé. Elvis Kavira s'est occupé de la réalisation. Et Pierre Diancinois, merci beaucoup. Il a fait les deux fonctions à la première partie. Excellente journée et à demain pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service.